Le thème de ce soir. Alors, pourquoi le lien avec mon père impacte-t-il encore mes décisions? Je veux dire que, déjà, le titre, c'est très mauvais titre, parce que c'est beaucoup trop long. En général, en marketing, on vous apprend à faire des choses beaucoup plus courtes. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ça ce soir? Pour plusieurs raisons. En grande partie, mon ministère de prêtre se dédie à la préparation au mariage. Et depuis quelques temps, quelques mois, voire quelques années, je vois que dans les relations amoureuses, ou la difficulté à s'engager, ou la capacité à avoir une relation d'un garçon avec une jeune fille et qui s'enracine dans le temps, eh bien, vient ressortir dans ces préparations au mariage la question et la place du père. Et du coup, je me suis dit, comme étant évidemment plus problématique et interférent quelque part, ou parasitant, ou je ne sais pas comment tu dis, trouver le mot, en tout cas, il est présent d'une manière ou d'une autre dans ce cheminement que le couple fait pour l'un ou pour l'autre. Là, la plupart du temps, c'était pour des garçons, mais ça pourrait être aussi pour des filles. Et donc, il reste encore des places devant. Descendez. N'ayez pas peur, je sais que les premiers seront les derniers, mais bon. Donc, voilà. Donc, ça a été une. Et puis, ensuite, c'est vrai que c'est un thème dont on ne parle que très peu. Je trouve, en tout cas, moi, je suis assez attentif à ce qui se fait sur Paris ou en France, qui est dirigé aux jeunes, etc. Et on voit qu'au fond, la place du père et le rôle du père et de voir en quoi, au fond, ça m'a construit ou au contraire, ça m'a fragilisé, eh bien, c'est un aspect qui est assez peu traité. Et puis, peut-être aussi une troisième raison, peut-être plus personnelle celle-ci, je n'ai pas connu mon père. Mon père était officier de marine dans l'aéronavale et il est mort aux commandes de son hélicoptère et j'avais 1 an et demi. Et du coup, à la guerre d'Algérie. Et du coup, aussi, je me suis dit, ça peut être aussi intéressant de pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, moi, j'ai dû travailler sur cette question-là. Maman s'est étant remariée ensuite avec une personne, un veuf. Et donc, voilà, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur parce que je me dis, c'est important de donner des témoignages. Si dans vos familles ou dans votre histoire, le lien avec votre père n'est peut-être pas évident, ou par son absence, là c'est le cas du décès, ou par la difficulté de relation, ou parce que voilà, un homme peut-être aussi, ça a ses fragilités. Du coup, au plan personnel, je me suis dit, ça pouvait être intéressant de donner un peu un témoignage et puis de me livrer de cette manière-là. Alors, on va commencer d'abord par. Il y aura une grosse partie qui est psychologique, ça ne vous étonnera pas. Et je vais mettre ça, on va mettre ça en ligne déjà. La conférence sera en ligne. Et puis, ensuite, le document dont m'inspire sera aussi en ligne sur le site de SPSP, qui est un document qui a été fait en grande partie par Elsa Benoît, que je ne connaissais pas, mais je trouvais intéressant de voir sa démarche et comment elle présente le rôle du père dans la construction de l'enfant. Pourquoi s'attacher peut-être plus au rôle du père? Première question. Pourquoi s'attacher plus à ça? Parce que c'est un rôle, j'allais dire, moins évident. C'est un rôle qui ne s'enracine pas dans la nature, dans le sens, il y a une continuité évidente entre la mère et l'enfant, de par la gestation, la grossesse, etc., de par l'allaitement, le lien se fait, j'allais dire, plus naturellement, s'inscrit dans la biologie. Hein? Et alors que le lien avec le père, c'est quelque chose qu'on voit quand on en parle en psychologie, c'est quelque chose qu'on appelle de symbolique. Symbolique, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire c'est une représentation de l'image que l'enfant se fait dans sa tête de son père. Symbolique, non pas que ça n'a pas d'importance comme l'euro symbolique, mais c'est comment est-ce que je me représente mon père et la manière dont je me représente mon père influe aussi hein, sur ma manière de me voir moi-même et de me voir, parce que qu'est-ce qui construit au fond un enfant, c'est à la fois la différence des sexes et à la fois la différence des âges. Et à travers ces deux différences, il y a une construction de l'enfant, et du coup, qui va faire que, en fonction de la manière, de la vision qu'il a de son propre père, eh bien, cette image est plus ou moins intégrée vers les 6 ans, en tout cas, c'est une étape. Et s'il y a quelque chose qui a été positif, même dans une absence, on le verra tout à l'heure, du père pour X raisons, mais s'il y a un souvenir, s'il y a un aspect positif qui a été transmis, dans l'image et dans le cœur de l'enfant, eh bien, c'est quelque chose de très important. Parce que ce rôle du père va aussi dépendre beaucoup de la place que la mère lui accorde. Et donc, aussi de réfléchir au couple de vos parents. Ce qui n'est pas forcément évident, on se représente les parents comme parents, mais on ne se représente pas forcément les parents comme couple. Et donc, du coup, de voir comment est-ce qu'eux-mêmes ont fonctionné et comment est-ce qu'ils s'harmonisent entre eux, sachant que un père, quelque part, c'est la femme aussi qui met l'homme à sa place, qui lui donne sa place, puisque, comme je l'ai dit, de façon biologique, elle est moins naturelle, elle est moins évidente peut-être à trouver. Mais c'est important de se dire que un regard positif de l'épouse sur son époux va construire l'enfant dans cette démarche de quelqu'un qui est avec lequel, si je suis un garçon, eh bien je vais m'identifier, si je suis une fille, quelqu'un vers les hommes en général, je vais être attiré. Parce que justement, la mère, dans ce sens-là, je vois il y a beaucoup de jeunes filles dans l'assemblée, mais si d'aventure vous vous mariez un jour, comme il est important de se dire que c'est vous qui, d'une manière ou d'une autre, rendait le père présent, qui lui donnait sa place. Je pense à un exemple dans les préparations au mariage que j'ai eu à accompagner il y a plusieurs années, d'une jeune fille qui disait, ben voilà, moi, ma mère, c'est elle qui organisait tout à la maison. C'est-à-dire, grosso modo, mon père n'avait pas son mot à dire. C'est elle, tout était organisé, verrouillé, etc., etc. Et je n'avais pas de... je ne voyais pas où était la place de mon père. Et puis non seulement je ne la voyais pas, mais d'une manière ou d'une autre, elle le dévalorisait. Elle le dévalorisait, et donc du coup... Et elle me dit, moi, comment est-ce que je vais faire comme future épouse et future mère de famille pour donner aussi la place à mon mari, sachant que je n'ai pas eu ce modèle-là dans ma propre famille, non pas qu'il y ait eu un modèle traumatisant, etc., mais simplement, la mère était tellement omniprésente, et le père tellement à un niveau, j'allais dire, assez faible de présence, en tout cas pas du tout valorisé, voire au contraire, humilié, le terme est fort, mais en tout cas diminué dans son importance. Donc du coup, comment je vais faire pour me construire ? Donc, c'est intéressant de se dire que quand on parle de relation du père dans sa propre existence, évidemment, ça renvoie à la relation des époux que représentent nos parents. Hein, et comment ont-ils réagi et comment est-ce qu'on, disons, d'une manière ou d'une autre, vécu cette relation-là. Il y a trois fonctions, ce qu'on appelle la fonction paternelle. Il y a trois fonctions qui sont très importante dans le rôle du père dans la famille. C'est ce qu'on appelle, premièrement, la fonction de tiers séparateur. Le tiers séparateur, c'est-à-dire parce que l'enfant, quand il naît, au fond, sa mère est le prolongement de lui-même. Et donc, l'enfant, quand il naît, il ne voit pas la différence. C'est normal, il est dans un état de fusion fusionnelle, déjà la fusion in utero, évidemment, et puis ensuite avec l'allaitement, etc., etc. Il y a cette fusion qui fait qu'il ne fait pas la différence entre lui et sa maman. Et le père, c'est ce tiers, ce qu'on appelle le tiers séparateur, c'est-à-dire qui permet progressivement de dire, de faire prendre conscience à l'enfant qu'avant d'être sa maman, c'est d'abord une épouse. Et donc c'est celui qui va aider donc à la régulation entre mère et enfant et à faire que justement l'enfant arrive dans une certaine autonomie. On voit par exemple à l'âge adulte des personnes qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas vécu une suffisante distance d'avec leur mère par exemple. Je pense plutôt des garçons. Hein. Et donc du coup, une suffisante distance avec leur mère, qui restent encore trop fusionnelles avec leur mère, qui restent encore trop en dépendance. Du coup, déjà dans leur recherche, voilà, de amoureuse, on se dit, mais est-ce qu'ils recherchent une mère, est-ce qu'ils recherchent une femme? Bon, chez l'homme, ça peut être un peu oui. Parfois, on peut se poser la question. Du coup, il faut lui poser la question. Mais c'est intéressant de se dire que c'est aussi une personne, parce que la séparation n'a pas été faite. Du coup, cette séparation-là fait que il y a, en termes de prise, de confiance en soi, vous voyez. On dit souvent, voilà, un enfant, t'es toujours dans les jupes de ta mère, toujours besoin d'être rassuré. Parce qu'il n'y a pas eu cette expérience masculine, cette présence masculine qui a fait justement cette séparation d'avec la mère, ce tiers séparateur qui fait que justement l'enfant trouve une certaine autonomie. On peut dire aussi que si la mère met au monde l'enfant biologiquement, charnellement, le père met au monde aussi l'enfant dans le sens où il le retire, où il progressivement lui donne une autonomie par rapport à une protection trop forte ou une surprotection maternelle, etc. Et il l'envoie vers le monde. Et ça, je crois que c'est très important. Il met au monde dans ce sens-là. Il l'envoie au-delà d'une sécurité immédiate. Et quand il joue bien son rôle, c'est ça, c'est d'encourager à une autonomie, d'encourager à une prise de décision, d'encourager au risque. Alors que, voilà, au contraire, je veux dire, maternel, au plan maternel, souvent sans tomber dans des schémas, mais il y a plutôt ce côté très protecteur. Mais justement, un père qui joue bien son rôle, c'est celui qui met dans le risque, c'est lui qui permet à l'autre de prendre une autonomie au-delà d'une sécurité immédiate et au-delà d'une protection. S'il n'y a pas ça, forcément, il y a toujours ce désir de protection, vous voyez, il y a toujours, inconsciemment, parce que je n'ai pas eu quelqu'un qui était derrière moi et qui m'a dit « Vas-y, je suis avec toi, même si tu te casses la figure, même si ça ne va pas dans ta vie, mais prends tes décisions, je serai avec toi. » Eh bien, du coup, je trouve que de ce point de vue-là, s'il n'y a pas eu ça, c'est sûr que dans le développement ensuite, dans l'âge adulte, le jeune adulte, l'adolescent ou le jeune adulte, évidemment, aura du mal à prendre les décisions, sera dans une certaine... difficulté à prendre des engagements, incertitude, voire angoisse, parce que toujours à la recherche d'une sécurité qu'il devrait normalement avoir en lui-même, parce qu'il a pris des risques, parce qu'il a fait franchir des étapes, et donc cette sécurité-là, comme il l'a pas dans lui-même, il la recherche dans d'autres. Vous voyez, puis il cherche les autres comme des béquilles. Et on voit bien, par exemple, dans des relations amoureuses, quand l'autre recherche, au fond, une béquille plus que vraiment une épouse ou un époux, c'est-à-dire rentrer dans une logique de don, c'est ça, être époux et épouse, et non, c'est là plutôt une logique de protection. Et bien, quand c'est ça, forcément, à un moment donné, soit ça casse, soit ça évolue pour que chacun devienne adulte. Mais on ne peut pas construire clairement une relation amoureuse dans ce désir d'être protégé par la personne avec laquelle je vis une histoire actuellement, où je veux me marier, ou etc., etc. Donc c'est là où ça influe, vous voyez. Donc ensuite on verra comment ça... Donc c'est celui qui pousse à l'autonomie de l'enfant, hein, et quelque part limite aussi ce rôle protecteur maternel et fait une différence, fait une, hein, comme on dit familièrement, couper le cordon. Hein, couper le cordon, ça c'est vrai que c'est vraiment ça, c'est pour qu'il puisse être lui-même un adulte dans la vie après. Hein, donc, et je trouve aussi au plan spirituel, puisqu'on aborde le plan psychologique, mais attention, les deux plans sont bien séparés, mais en même temps pas complètement distincts, dans le sens où il y a des passages entre les deux. Mais au plan spirituel, je trouve beau déjà que Jésus déjà nous envoie en mission et nous dit en même temps: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je trouve que c'est aussi ce rôle comme expression du Père. Le Christ, c'est celui qui manifeste le Père. Nous, comme chrétiens, nous croyons ça. Celui qui dit le Père, Hein, c'est très fort hein, dans la foi chrétienne, cette dimension du Père aussi. Hein, et donc, du coup, il nous permet à la fois d'arriver dans une autonomie et de porter une fécondité et puis une véritable, c'est ça, une véritable âge adulte aussi dans la foi. Ça va jusqu'à présent ? C'est bon ? C'est pas trop rapide ? C'est bon ? Deuxième point, le Père, donc le premier point, c'est porteur séparateur, le tiers séparateur. Deuxième point, détenteur de l'autorité. Et ça, c'est intéressant de voir ça, même si là encore, il ne faut pas tomber dans des clichés, ou etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans c'est celui qui porte, au fond, cet interdit, ce qu'on appelle l'interdit oedipien, c'est-à-dire, quelque part, je n'ai pas à posséder ma mère. Et donc, du coup, celui qui est porteur d'interdit, c'est plus facile aussi au père de porteur d'interdit, d'être porteur d'autorité dans le sens aussi de faire grandir. Et donc aussi d'autorité dans le sens de limite. Un enfant à qui on ne met pas de limite, c'est un enfant qui grandit dans l'anxiété. C'est un enfant qui grandit dans l'angoisse parce qu'il ne sait jamais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Est-ce qu'on voit comme ça un peu des parents copains, entre guillemets, qui est à mon avis une véritable catastrophe, parce que du coup, voilà, il te dit « Ah mais non, c'est lui qui va choisir ». Mais un enfant, si on lui donne d'abord, il rentre dans une éducation, comme parent, chaque parent veut le meilleur pour son enfant, fait des choix et il rentre, il invite, ensuite il choisira. Mais d'un enfant qu'on met directement, sans interdit, mais c'est lui qui choisit, c'est un enfant angoissé. Ça c'est tout à fait clair. Ça c'est parce que trop tôt il a apporté trop de responsabilités. Et quand t'es enfant, on dit voilà, c'est un yaourt à la fraise, voilà, on va pas te mettre 36 000 yaourts devant toi, mais qui est-ce que tu vas choisir? Et puis quelle marque? Est-ce que tu veux 0%? Est-ce que tu... Oh là là, je veux dire, à la fin le gamin il pète la plomb, quoi. Je veux dire donne-moi un yaourt, c'est tout. Et puis voilà, donc voilà, c'est bon, l'exemple un peu bateau, mais je trouve que c'est le fait. Et c'est celui qui permet justement à l'enfant de se mettre debout, le fait d'être autorité. On avait vu ça dans une autre rencontre, dans l'autorité dans l'entreprise, ça a aussi des rapports. Mais c'est intéressant de voir, autorité, c'est permet d'être auteur. C'est celui qui permet d'être auteur. C'est celui qui permet d'être auteur de sa propre vie. Celui qui est à autorité, celui qui justement, et ça vient de augere en latin, qui fait grandir dans ce sens-là. Donc on est loin de cette, qui est une déviance, de cet autoritarisme paternel, qu'on va voir tout à l'heure, comme une vraie difficulté. Une chose, c'est l'autorité dans le sens de faire grandir, que l'enfant devienne auteur de sa vie. Autre chose, l'autoritarisme, qui peut, pour certains enfants, qui les pétrifie. Hein, j'accompagne des personnes qui ont été apeurées par leur père, surtout des colères paternelles, etc. Et donc là aussi, on voit bien que en termes d'indépendance, en termes de sécurité, de confiance en soi, c'est plus difficile. Troisième point et la troisième mission du père, c'est ce qu'on appelle le modèle identificatoire au plan sexuel. Donc c'est celui qui fait sortir, il guide l'orientation sexuelle des enfants. C'est assez intéressant de voir ça dans ce travail qui a été fait par cette psychologue, hein, qui n'est pas, c'est pas une personne catholique, hein, c'est une psychologue qui a travaillé sur le rôle du père, la fonction paternelle. Et donc, du coup, elle dit la chose suivante. L'enfant se définit sexuellement par son sexe biologique, d'une part, et par sa place, sa position par rapport aux parents de sexe opposé. L'enfant se définit donc par opposition aux parents du sexe opposé et par identification aux parents de même sexe. C'est intéressant, ça, cet aspect-là. Quelque part, je suis heureux d'être un homme parce que j'ai vu dans mon père un modèle qui était... désirable. Je suis heureux aussi d'être une fille et parce que le premier regard d'homme qui s'est posé sur moi, fille, eh bien, ça a été le regard de mon père qui m'a donné confiance dans ma féminité et qui m'a dit que j'étais la plus belle au monde, etc., etc. Bon, après ils disent la vérité, mais bon, mais quelque part, c'est intéressant de dire que, et par exemple, l'homosexualité masculine, je pense, vient beaucoup de ça. C'est-à-dire que c'est plus, c'est pas volontaire, de toute façon. Moi, je suis hétéro, mais je suis pas volontaire. C'est pas une décision que j'ai prise dans ma vie. Et je pense aucun ne prend la décision ni d'être hétéro, ni d'être homo. Hein, mais simplement, il y a un câblage dans le cerveau qui fait que être quelque part, être le parent de même sexe, eh bien, on le voit comme quelque part. Une chose positive, une chose enviable. Moi, je me souviens avoir accompagné comme ça une personne homosexuelle et qui a eu des grosses difficultés, mais là, ça, c'était, à mon avis, c'était pratiquement pas pathologique, de battu par son père, voir sa mère traiter moins que rien, etc., etc. Ça a été très violent. Donc, et ce garçon-là n'a pas pu faire cette identification au père quelque part. Cette identification, il ne voit pas se positionner comme homme, donc comme quelque chose de désirable. Du coup, il recherchera toujours des hommes pour compléter aussi ce qu'il n'a pas reçu à l'intérieur de cette relation père-fils. Hein, parce que je trouve ça très important de voir que cette relation père-fils, justement, offre une image, c'est ce que dit là, le père doit offrir une image d'identification suffisamment valable à son fils pour que celui-ci puisse parvenir à l'acceptation totale de la virilité symbolisée par le père. Hein, donc, et la fille, elle, parce qu'on dit oui, ben, c'est une question de garçon, la fille, elle, s'identifie indirectement au père, en effet. La fonction paternelle chez la fille consiste à lui faire découvrir le rôle complémentaire de la mère, celui de femme, et ainsi assurer l'acquisition d'un modèle de féminité. Comme il est important que on revient au couple, parce que tout au début est le couple, je veux dire, ce qui est premier dans une famille, c'est d'abord le couple, un regard positif, pareil, du père sur la mère va aider évidemment la jeune fille à s'identifier dans sa propre sexualité et avoir confiance dans sa propre sexualité, hein, et à être heureuse d'être quand je prépare au mariage, mais en général c'est qu'ils n'ont pas trop de problèmes d'identification, mais bon, ça peut parfois arriver parce qu'on les met sous dans les milieux cathos, on les met un peu sous le boisseau, quoi, si on a des problèmes d'identification sexuelle. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu es heureux d'être un garçon? Est-ce que tu es heureux d'être une fille? Etc. Voilà, c'est parce qu'il y a eu quelque part un père qui m'a donné aussi cette capacité de m'identifier avec la personne de même sexe et de voir l'autre sexe comme désirable. Hein, c'est les deux choses qui sont importantes. Quels sont, donc voilà, ensuite, ça c'est les trois rôles de la fonction paternelle. Ensuite, on va rentrer dans les défaillances de la fonction paternelle. Les défaillances de la fonction paternelle, c'est-à-dire du rôle du père, ça peut être premièrement l'absence physique. Mais de ce point de vue-là, une absence physique, parfois trop fréquente ou trop. Je pense surtout des absences. Une absence quotidienne, mais on sait quelque part, encore une fois, c'est de l'ordre de la représentation, le rôle du père dans le cœur de l'enfant et dans son esprit. C'est de l'ordre du symbolique, de ce qu'il se représente de l'image du père. Et donc, le fait qu'un papa rentre tard ne va pas forcément nuire à l'équilibre d'un enfant, parce que dans sa tête, il pense ça, sa maman, avec son papa. Je dis ça, c'est important, parce que un enfant qui, d'une certaine manière, voit, pense sa maman, mais sans son papa, sans un soutien, va assez naturellement prendre la place du père. C'est-à-dire, va prendre la place du parent qui est manquant. De façon tout à fait inconsciente, cet enfant-là va se sentir en responsabilité de son père ou de sa mère, selon que ce soit son père ou sa mère qui soit manquant. Donc, c'est intéressant de voir que l'absence physique n'est pas forcément un problème. Au contraire, si le père est porteur d'autorité, parfois l'absence physique est plutôt une bénédiction. Mais il faut que. Ensuite, il y a les absences de longue durée. Et là aussi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des femmes de militaires. Peut-être vous êtes issus de familles où le papa est militaire, ou vous connaissez des militaires dans votre famille ou dans les amis de vos parents, etc., il y a ce qu'on appelle les opérations à l'extérieur, les OPEX. Et c'est pour 3 mois, 6 mois, je crois, à peu près. Bon. Et du coup, je parlais avec cette épouse de militaire, je lui dis, mais comment est-ce que vous gérez, vous, justement, le fait de la présence du père? Comment cette absence du père sur la longue durée ne va pas être une absence dans la tête de l'enfant? Et là, elle me disait quelque chose d'assez juste. Elle me disait, au fond, le fait de. Ben déjà avec les moyens modernes de communication, avec en montrant ben, papa est là sur là, il est là dans ce pays-ci, il est en train de faire ça, etc. C'est ce rôle d'épouse de rendre le père présent. Mais dit parce que j'ai moi-même, je savais que j'épousais un militaire, je savais ce que ça voulait dire épouser un militaire, que ça voulait dire des absences parfois prolongées. Eh bien, j'ai choisi, contrairement parfois à d'autres filles, de ne pas faire payer à mon mari les absences qu'il avait lors de ses déplacements à l'étranger. Hein, donc, je trouve que de ce côté-là, en revanche, une absence qui est mal vécue par la mère, une absence qui est vécue comme un abandon par la mère, va entraîner évidemment une forme d'angoisse au niveau maternel, et puis va entraîner chez l'enfant donc une difficulté à se projeter, et encore une fois, à vouloir pallier. Je veux dire, la nature a horreur du vide. On veut pallier, on veut protéger la mère, on veut quelque part qu'elle soit pas seule et lui éviter des souffrances ou lui éviter des complications, etc. Deuxième source de carence, on peut dire, le décès. Le décès, là aussi, ça dépend un peu des circonstances du décès, évidemment, mais tout dépend aussi de plusieurs choses. C'est que dans le cas de décès, il peut y avoir, c'est ça qui est assez intéressant, et moi je l'ai aussi vécu dans ma propre vie, quelque part, comme le père est d'ordre symbolique et d'ordre de représentation dans l'image de l'enfant, quelqu'un d'autre peut prendre la place du père sans être époux, par exemple. Je vois par exemple mon oncle, côté paternel, a clairement pris cette place. Mais je m'en suis rendu compte qu'après. Parce que il était. Maman, elle s'est retrouvée veuve à 24 ans avec 3 enfants. Donc, évidemment, une situation dramatique et compliquée. Donc, la famille était fort autour d'elle, a été l'a soutenue. Bon, mais du coup, le fait de savoir que mon oncle était là et puis prenait soin de la famille, demandait des nouvelles, etc., dans ma tête, c'est très clair. Ça a pris maman n'était pas seule. Maman n'était ah bon, après, elle s'est remariée, donc à fortiori, elle était encore moins seule. Elle a eu quelqu'un qui. Mais je n'ai pas vécu, même si je pense que dans ma personnalité, il y a des choses qui auraient été différentes. Le fait de connaître son père, évidemment, ça change tout à fait les choses. De ne pas le connaître, il y a certainement des immaturités en moi, il y a des choses qui ne sont pas construites ou qui sont construites différemment. Mais on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que le décès du père, tout dépend comment il est présenté, et tout dépend si la mère, ensuite, est d'une manière ou d'une autre, est protégée et quelque part est soutenue, quoi, hein. On précise qu'un effet psychologique conduit l'enfant à idéaliser le père disparu, bien que concrètement absent, dans le cas de décès. Le modèle paternel est idéalement représenté. Il sert donc encore à la formation de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a déjà, il y a encore cette présence dans le discours familial, dans le discours des proches parents, dans le discours des grands-parents, etc. Du coup, quand c'est vécu le mieux possible, eh bien, il peut y avoir. Et puis quelqu'un peut prendre le relais de cette autorité paternelle. Et ça, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Ensuite, troisième cas de défaillance, plus douloureuse celle-ci, c'est la séparation des parents. La séparation des parents, alors évidemment, tout dépend l'âge auquel les parents sont séparés, mais là, il n'y a pas très longtemps, je voyais un jeune qui a eu ben, votre âge, 28-30 ans, etc. Bon, ben, ses parents se séparent. Bon. Comment est-ce que. Et lui, on est bouleversé, forcément. Imaginez, bon. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est quand il y a séparation, Quelle est l'image aussi que la mère a donnée du père? Est-ce que ils se sont, c'était l'accusation. Et si c'est chacun renvoie une image négative de l'autre sur l'enfant, forcément ça va le fragiliser. Ça c'est évident. Déjà c'est un déchirement de pain de toute façon, mais encore plus s'il y a une séparation qui se fait dans une idée très négative. Hein. Les parents devraient sauvegarder l'équilibre psychique de leur enfant, devraient s'efforcer d'expliquer leur séparation en préservant l'image de soi et l'image de l'autre. Hein, voilà, comme nous l'avions expliqué auparavant, une bonne relation entre les deux parents est garante de la fonction paternelle. Ensuite, je dirais, il y a une autre déficience, c'est la question du mutisme. Là, qui est, j'allais dire, plus courante. Et qui est plus compliqué à gérer, d'un mutisme, mais en même temps expressif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que on sent qu'il y a le père ne s'exprime pas ou ne s'exprime pas assez, mais en même temps dit son opinion, fait comprendre par des gestes, par un langage corporel, qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord. Et ça, chez certains enfants, en tout cas, ça peut être ressenti comme très douloureux, de voir qu'ils ne sont pas approuvés, même s'il n'y a pas de violence physique, même s'il n'y a pas de violence verbale, un mutisme désapprobateur, va fragiliser, évidemment, l'enfant. Hein, si l'enfant dit, mais tiens, je pense faire ça, ah, oui, c'est tout, je dis rien, ou alors je lève les sourcils. Pas une parole, rien, aucune explication. Mais un enfant qui a, ou un adolescent, qui a ça en face de lui, avec l'autorité paternelle, voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne voit pas ce qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas de parole qui est dite. Et donc, pas parole qui est dite, donc ça veut dire quelque chose qui est potentiellement source d'angoisse pour l'enfant. Parce qu'il y a quelque chose de mal, mais je ne sais pas ce qui est mal. Et donc, forcément, il y a tous les motifs d'être angoissé, disons, en tout cas. Donc, ce mutisme, mais en même temps expressif, ce qui veut dire aussi qu'il est important, comme on dit, de chercher l'homme dans sa caverne, etc., mais c'est vrai, c'est important de le tirer pour qu'il exprime les choses qu'il porte dans son cœur, que ce soit pour son épouse ou pour ses enfants. Hein, et du coup, vous, comme adulte aussi, que vous avez, le lien que vous avez avec votre père, c'est important d'aller le chercher et à la fois, c'est même s'il y a beaucoup de pudeur et de sensibilité, etc., mais de lui demander, particulièrement au moment de construire un couple, au moment, etc., de demander, mais c'est vrai qu'il y a des pères qui n'ont jamais eu l'habitude, donc c'est un petit peu compliqué pour eux de s'exprimer, mais voilà, il faut aller le chercher. Donc, hein. Donc voilà. Ensuite, il y a les problèmes, là, on grandit, j'allais dire, un peu dans les difficultés du père, les carences d'ordre d'autorité. Hein, les carences d'autorité, absence morale, c'est non seulement une absence physique, mais il y a parfois une présence physique, mais une absence morale. C'est-à-dire qu'au fond, il est là, mais il ne sert à rien, quoi, grosso modo. C'est malheureux à dire, il est là, mais c'est, comme je vous le disais, maman fait tout, qui occupe tout le terrain. Mais lui, où est sa part, où est sa main, voilà, c'est plus compliqué à comprendre. Hein, nombreux, alors ça peut être volontairement ou involontairement, nombreux sont les pères, peu attentifs à la vie familiale. Ils se déchargent sur leurs femmes pour tous les problèmes éducatifs. On observe des carences d'autorité importantes, c'est-à-dire que quand il s'agit d'être un point d'appui indispensable pour poser les interdits, comme je l'ai dit, des interdits qui sont structurants pour l'enfant, eh bien, il n'est pas au rendez-vous. Hein, et donc, de ce point de vue-là, on peut parler de démission paternelle, la démission du père, de son rôle de contrôle d'une part et de son rôle dans la vie familiale d'autre part, entraîne un déséquilibre global chez l'enfant qui aura la possibilité de transgresser les règles. Voilà, ça crée une incertitude chez l'enfant, cette démission morale. Démission morale qui peut être due à plusieurs facteurs aussi. Je pense par exemple à quelque chose... La question du chômage, d'un père de famille, c'est très important quand j'accompagne des couples qui sont dans cette situation-là, que l'épouse, au fond, vous me direz, mais bon, il y a beaucoup de choses qui reposent sur la femme. Mais ça, comme vous ne l'avez pas remarqué, ça repose beaucoup sur vous, mesdemoiselles ou mesdames. Ben, que l'épouse va continuer à valoriser le père, même dans cette absence, dans cette situation de chômage, et où il est plus en fragilité quelque part. Hein, et je me rappelle comme ça d'une maman qui me disait, voyant pendant que son mari était au chômage, mais papa, il est toujours ingénieur, je ne vois pas d'aller travailler, il ne part pas, il y a quelque chose qui change dans la famille, cet aller-retour qui faisait le lien avec le monde extérieur aussi, hein, cette mise au monde dont je vous ai parlé, du coup, ça c'est intéressant de voir qu'elle est plus présente, et donc c'est important. Quand l'homme ou la femme sont en situation de fragilité, d'où l'importance de la vie en couple, que chacun valorise l'autre dans cette situation de valorité, de fragilité, et le valorise et le soutienne. Hein, parce que ce n'est pas, au contraire, en diminuant l'autre, en le mettant dans une pauvreté plus grande face à ses enfants ou face à son épouse ou à ses parents ou aux autres, qu'on va l'aider et en faire sûr qu'on va aider les enfants à grandir. Et puis en dernier lieu, en fait, les pathologies, bon, il y a des pathologies qui peuvent, mais bon, ça c'est grâce à Dieu assez rare, comme j'ai parlé de la question de la violence par exemple, comme la question de l'alcoolisme. Comme la question de colère, j'allais dire, mais qui sont pathologiques, je veux dire, où on voit l'homme qui n'est plus du tout maître de lui-même, quoi, qui quelque part n'a pas fait de travail sur lui-même, et ou alors a vraiment des problèmes, voire psychiatriques. Hein, alors là, c'est autre chose. Là, je pense que c'est suffit pas de valoriser, faut aussi protéger, quoi. Et la loi aussi permet de protéger, hein, des enfants qui sont dans des situations pareilles. Terminer, j'allais dire, sur cette partie psychologique, mais qui est très importante, en quoi ça a un rapport avec ma vie aujourd'hui ? Chacun de vous, si vous avez eu un père, ben voilà, qui vous a encouragé, avec lequel vous avez vu l'homme grâce à lui comme jeune fille, désirable, et comme garçon, identifiable à lui, etc. Bon, si vous avez eu cette grâce-là, ben, je pense que c'est d'abord de remercier aussi, hein, de le Seigneur dans sa propre vie, mais de le remercier, le Seigneur pour le père qu'on a eu. Hein. Mais si d'aventure, il n'a pas, vous auriez attendu autre chose. Il n'a pas été là au moment clé de votre vie. Il n'a pas été là il n'a pas été présent, ou au contraire, il a été celui qui vous tirait vers le bas, qui vous angoissait, qui vous faisait perdre confiance, qui vous déstabilisait, qui vous disait, voilà, je me rappelle comme ça un couple, la femme me dit, mais j'en veux à mon beau-père d'avoir traité toute sa vie mon mari de nul. Parce que du coup aujourd'hui ça lui rend la tâche plus difficile pour être époux et père à son tour. Hein, et donc du coup c'est intéressant de se dire que le rôle qu'ont joué en général les parents, mais en particulier le père, mine de rien, comme c'est un rôle qui est dans la structure mentale de l'enfant, il reste aussi dans la structure mentale de l'adulte. Et parfois, on veut faire des choses pour faire plaisir à son père, ou on cherche l'assentiment quelque part, on cherche le consentement, on cherche de façon plus ou moins... alors qu'au contraire, une manière autonome de vivre la relation au père, c'est de devenir adulte, et bon, on peut demander conseil, mais de prendre soi-même ses décisions. Donc, en quoi ça impacte aujourd'hui les décisions, soit positivement, comme j'ai dit, de prendre une autonomie, soit de façon plus négative, je l'ai dit un peu tout au long de du topo, mais des manques de confiance, ça c'est clair que une personnalité angoissée, c'est clair que c'est bien souvent un père qui n'a pas été présent ou suffisamment présent, une personnalité qui est pusillanime, velléitaire, voilà, qui a du mal à prendre des décisions, qui a du mal à l'engagement, qui a du mal au risque, etc. Parce que justement, à un moment donné, il n'a pas eu ce sentiment d'être épaulé dans sa propre vie. Et donc, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir, et encore une fois, chaque cas est particulier, je vous donne des généralités, mais c'est intéressant de relire. Vous êtes à un âge, je trouve, qui est aussi intéressant, surtout si vous vous envisagez, ou vous êtes dans une relation à deux, ou vous envisagez une relation à deux, ou vous souhaitez fonder une famille plus tard, de prendre ce temps de relecture aussi, de relecture par rapport au rôle qu'a eu le père, et en même temps, et là c'est l'aspect plus spirituel, j'allais dire, de mon intervention, mais en même temps, de rentrer dans une miséricorde. Je pense qu'il y a parfois des pardons à donner à ses propres parents, père ou mère, mais aussi des pardons à donner parce que on attendait autre chose d'eux, on aurait souhaité quelque chose qui soit différent, un soutien, un appui. Et de ce point de vue-là, je trouve très beau de voir que nous-mêmes, comme chrétiens, nous avons comme un aspect très important de notre vie et de notre foi, cette dimension du pardon et de la réconciliation. Je me souviens, cet homme, il se trouvait que c'est un militaire, mais il n'y a pas que les militaires qui peuvent demander pardon, mais qui dit, voilà, j'ai été très dur avec ma fille aînée. J'étais très dur, je sens que j'étais très dur, et il se trouve que c'est une fille aînée qui est toujours célibataire, elle a une quarantaine d'années aujourd'hui, j'étais très dur, etc., et très exigeant, très, comment on peut dire ça, perfectionniste, lui laissant rien passer, etc., au niveau autorité, mais du coup c'était une autorité, non pas qui m'aide à devenir, mais une autorité qui t'effondre quelque part, qui te tire à bas, quoi, dont t'as peur. Hein, et du coup, il a fait une démarche de pardon, et je trouve ça très, très, très beau, et envers sa fille aînée, parce qu'il estime que le fait qu'elle n'ait pas à passer la quarantaine, en tout cas, fonder un foyer, etc., en partie, il estime que c'était en partie, il en était en partie responsable, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, et de fait, dans cette réconciliation, cette jeune femme, une quarantaine, s'est effondrée comme une petite fille dans les bras de son papa. C'était vraiment ça. Il m'a raconté l'épisode qui était vraiment très, très, très émouvant aussi, parce que elle a dit oui, ça m'a pas aidé, quoi. Ça, c'est clair, ça m'a pas aidé. Cette autorité qui te tire vers le bas, qui te maintient à terre, qui te oppressante. Ça ne m'a pas aidé dans ma vie de femme et dans les relations ensuite avec les garçons et dans parce que forcément qui dit voir un garçon pour une fille voir un peu son père aussi, bon voilà, c'est je crois que c'est important que vous puissiez vous poser la question si tout va bien dans votre famille, alléluia, et puis remerciez le Seigneur pour ça, mais si vous avez dans vos familles un point douloureux par rapport à ça, c'est important d'entamer aussi un processus de réconciliation, vous voyez, de pardon, en tout cas que vous, dans votre cœur, la réconciliation, il faut être deux. Le pardon peut le faire tout seul. C'est-à-dire, si l'autre ne reconnaît pas, bien, parce qu'il ne voit pas où est le problème, en fait, pour lui, ça a toujours été moi le problème, dans la famille, parce que je suis le vilain petit canard. Hein, et il dit, mais non, tu vois, le fait de m'avoir dit ça toute ma vie, ça, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, on peut pas être vilain petit canard toute sa vie dans une famille. Donc, tu reconnais. Mais si l'autre ne reconnaît pas, je peux toujours pardonner, même s'il n'y a pas de réconciliation. Vous voyez, c'est même. Et pourquoi c'est important de pardonner? Parce que ça vous permettra aussi d'avancer dans votre vie d'adulte, de ne pas rester à l'âge adolescent ou à l'âge d'enfant et de faire des pas, et je crois que c'est là la grâce aussi de notre foi chrétienne, l'espérance. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le fait de ne pas avoir connu mon père, forcément, ça a eu des impacts dans ma vie, peut-être positifs, peut-être d'autres négatifs. Je m'en suis quand même pas trop mal sorti, j'ai fait comme j'ai pu. Mais en même temps, c'est important de ne pas rester une victime toute sa vie. Je veux dire, oui, j'ai pas connu mon père, j'ai ceci, et si j'avais eu, et s'il avait été là, et s'il avait été là. Bon, oui, tout garçon aurait voulu avoir son père à ses côtés au moment de son bac, au moment, je sais pas quoi, de mon ordination sacerdotale, au moment de. Voilà, c'est certainement. Mais bon, la vie a été faite comme ça. Bon, on a aussi un regard de foi sur sa propre vie. Hein, on ne va pas tomber dans une victimisation qui au fond, à la fois ne vous aidera pas à grandir et à la fois ne vous aidera pas à poser des choix, quoi. Donc, je pense que le fait du pardon permet justement de sortir de ça, de sortir de ce côté de victime. Et je trouve que le signe que justement de la résurrection est un très beau signe, que Jésus ressuscité est ressuscité avec ses plaies. Moi, c'est pas, il n'est pas ressuscité en étant super bodybuildé, etc. C'est moi que voilà, vous voyez, je suis impeccable. Non, il est ressuscité avec ses plaies. Ça veut dire aussi que je peux avoir des plaies, je peux être blessé dans ma vie et construire et avancer. C'est ça la résurrection. Je pense que cet amour de Dieu est capable aussi, dans mes propres plaies, si je laisse cet amour du Père venir guérir mes plaies, je pense que je suis capable de construire quelque chose. Non pas par mes propres forces, non, parce que peut-être, mais par la grâce de Dieu. Moi, l'exemple moi qui me vient tout de suite à l'idée, c'est l'exemple de Tim Guénard. Je ne sais pas si vous l'un de l'autre vous connaissez. Tim Guénard, qui a vécu une enfance malheureuse, placée par le juge, la violence, etc., tout ce que vous pouvez imaginer derrière. Et cet homme-là qui a fait la rencontre de Dieu dans sa vie, la rencontre de son épouse dans sa vie, ces deux rencontres font qu'aujourd'hui, au contraire, cette blessure, vraiment très forte, là pour le coup de violence, de mauvais traitements, de ce qu'on peut imaginer d'enfants placés par le juge dans les foyers d'accueil, dans les maisons de redressement ensuite adolescents, mais aujourd'hui, c'est lui qui accueille. Et je trouve ça très beau comme image de dire que c'est de cette blessure-là, parce qu'il en a mis, il a fait confiance et qu'il a mis le Seigneur dans sa vie, de cette blessure-là est venue une fécondité. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est important pour nous chrétiens de dire le Christ ressuscite avec ses plaies, le Christ aussi veut que nous marchions à sa rencontre. Voilà, on aurait voulu peut-être avoir un autre père, une autre mère, j'en sais rien, mais voilà, il se trouve que c'est dans ce contexte-là qu'on a grandi et que l'on a mûri ou qu'on a été blessé, etc. Mais cette confiance dans le Seigneur qui fait que, malgré ça, je peux avancer et je peux construire quelque chose. Et ça, c'est le signe de la résurrection, des personnes blessées, mais qui avancent. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est le chrétien, c'est ça. Même s'il est blessé, cette confiance en cette présence de Dieu dans sa vie va faire qu'il va avancer et que le Père, dont le Christ est le témoin, eh bien, va se rendre présent à lui pour venir peut-être guérir, ou en tout cas mettre un baume sur ce qui a pu être des blessures et ce qui a pu être des difficultés dans la relation avec son propre Père. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir, et puis de vraiment vous, si l'un ou l'autre, voilà, c'est plus douloureux pour vous, de prendre le temps, peut-être aussi après dans notre temps de prière, de remettre ce qui peut être douloureux dans ses relations avec le Père ou la Mère, mais on parle du Père aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout dans un seul topo, mais de le remettre dans la confiance, de le déposer au pied du Seigneur, de faire vraiment qu'il vienne répandre par son Esprit Saint un baume dans notre cœur pour faire de nous des hommes et des femmes debout aussi, qui avancent, et qui sont témoins de l'Évangile à leur manière. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'était clair ? Bon, en général, avec moi, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des ajouts, témoignages ?
N'a pas donné le biberon, a changé de couche.
Moi, je suis. Moi, là, pour le coup, je serais moins. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je ne sais pas si il y a un message à envoyer à quelqu'un ou à. C'est un message subliminal. Je ne sais pas s'il y a une jeune fille qui. Voilà. Non. Vous n'avez pas entendu. La question est de dire que. Il y a une personne qui dit, au fond, il faut aller. Au bout de cette logique du père, et le père n'a pas changé les couches, a donné le biberon, a baigné l'enfant, etc. Non, mais en tout cas, c'est pas. En tout cas, tu te faisais l'écho d'une personne, c'est ça qui disait ça. Bon, je trouve que de ce point, face à la féminisation de la société, du coup, il faut aller. Bon, personnellement, je trouve au contraire heureux que les hommes s'investissent dans l'éducation des nouveau-nés. Mais je trouve ça parce que et que aussi parce pourquoi parce que c'est heureux parce que déjà, et ça je ne l'ai pas dit, mais le fait d'être parent peut être aussi une source de guérison pour l'homme. Déjà, le mariage peut être aussi une source de guérison, c'est une source de bonheur, a priori quand on se marie c'est pour ça. Mais aussi le fait d'être parent, justement si vous avez eu à souffrir de cette difficulté-là par rapport à l'un de vos deux parents, et on parle du père ce soir... ça peut être justement, je pense, les parents. Alors, ils ont parfois trop tendance à être papa poule, justement, s'ils ont eu un père trop autoritaire et à pas assez mettre les limites, etc. Donc ensuite, il faut recadrer en couple. Ben, comment, où est-ce qu'on met le curseur? Mais moi, je suis plutôt d'avis, au contraire, que le père, parce que justement, comme c'est ça, c'est de l'ordre de la représentation. Mais voilà, ça fait que c'est ce père-là. Qui n'est pas ce patriarche omnipotent qui siège en bout de table dominicale et qui me regarde en haut, tout en restant mutique et en levant les épaules pour un signe de désapprobation. Mais c'est aussi cet homme qui s'est fait proche, qui a joué avec moi, qui s'est fait proche dans mon enfance. Et qui, je trouve ça aide au contraire à avoir de ce point de vue-là. Et puis il a un soutien aussi pour les épouses qui aussi travaillent, ont une vie professionnelle, etc. Donc je pense de ce côté-là, et je trouve aussi assez heureux, par exemple, que le congé parental, depuis déjà quelques années, soit ouvert aux hommes. Hein, de ce point de vue-là aussi, pour qu'ils puissent jouer leur rôle de père et une présence auprès de la femme qui vient d'accoucher, etc. D'autres questions ? Ouais, allez-y, mettez-vous debout, si c'est comme ça, on entendra bien. Je sais pas. L'infidélité. Alors, c'est pas. Non, mais merci parce que non, ça c'est pas. Non, c'est curieux parce que c'est pas. Quelqu'un peut être. Alors, un. Comment? Bah, c'est un peu la séparation, mais non, il peut y avoir. Non, mais infidélité, ça peut être sans séparation.
Sans divorce.
Sans divorce, mais. Oui. Oui, ils sont séparés, mais ils peuvent. Mais l'infidélité, je trouve que c'est beaucoup plus. Tout dépend comment c'est géré en couple après. Parce que s'il y a justement une réconciliation, si les parents. C'est un peu comme le divorce, c'est vrai, de ce point de vue-là, c'est un peu. Même si ça ne va pas jusqu'au bout de la séparation physique des époux. Mais s'il y a. Premièrement, les enfants ne sont pas forcément obligés d'être au courant. Ensuite, il peut y avoir un moment de fragilité, un moment de faiblesse, etc., d'un homme qui, dans une situation, et puis les infidélités, on sait très bien, bon, même si les hommes sont peut-être plus sensibles et fragiles de ce côté-là, mais c'est toujours aussi le signe de quelque chose dans le couple, pas que uniquement quelque chose dans l'homme. Hein, et donc, de ce fait-là, moi, je ne vois pas l'infidélité, c'est une difficulté, bien sûr, mais... C'est plutôt une difficulté de couple. Hein. Je verrais plutôt ça. Quelqu'un peut être. Bon. Je sais pas. On peut avoir un. En tout cas, dans ce travail-là que j'ai trouvé et qui est assez complet, c'est pas vécu. Alors, si c'est vécu comme un abandon, c'est ça toute la question. Est-ce que c'est vécu comme un abandon de la part du père? Et donc là, on rentre dans les autres pathologies, c'est-à-dire dans les autres carences. Si c'est le fait que le père se désengage, au fond, par cette infidélité, tout en restant sous le toit familial matrimonial, se désengage de l'éducation, et que l'enfant le sache, là, oui, ça... Mais on revient dans les carences qu'on a vues tout à l'heure. Quoi.
Oui. En ce qui concerne les projections des ambitions ou éventuellement des échecs, des tares du père ou des choses qui ont été vécues sur les enfants, comment est-ce que vous arrivez à se dissocier par rapport à ça?
Alors, concernant les projections des difficultés, ça du père, des tares, tu dis, ou des ratés, on peut dire, de. Comment ne faire pour ne pas reproduire? C'est un peu la question, c'est ça? Et comment se positionner? Ben, vous, comme adulte, la première chose, c'est de vous positionner, de vous dire, ça n'a pas pu ne pas avoir eu d'influence sur moi. Si, clairement, chez le père, il y a eu un manque dont on a parlé et qui a été vécu et qui était évident, criant et qui... la violence, comme la colère, comme un autoritarisme excessif. Maintenant, ensuite, la démarche de pardon, une démarche spirituelle, et puis de se dire qu'est-ce qui, en moi, reste toujours... qu'est-ce qui, en moi, va faire que je vais vouloir ne pas reproduire ça? Qu'est-ce que je mets en route dans ma vie, en place dans ma vie, comme travail sur moi-même? Et on le sait bien qu'au moment de former un couple, ben c'est d'abord un travail sur soi-même qu'on doit faire, hein, c'est chacun, parce que les problèmes de couple, c'est d'abord des problèmes de personne. Du coup, et puis, il peut y avoir aussi une parole de vérité par rapport. Il peut y avoir un contact avec son père à l'âge où vous avez, d'une parole de s'il n'y a pas eu de demande de pardon, si l'état de fait continue aussi. Et depuis des années, de violence, de manque de respect, de manque d'autoritarisme ou d'infidélité, etc., etc. Et qu'on voit que il peut y avoir à vos âges une parole aussi, une demande d'explication au bas mot. Je pense que ça me paraîtrait évident quoi, qu'il y ait une demande d'explication, parce que ça mérite explication, parce que, encore une fois, c'est pas une manière normale de fonctionner. Et donc une rencontre aussi avec votre père de ce point de vue-là pour faire un peu le point et alors maintenant c'est possible ou c'est pas possible. Si l'autre est persuadé d'être dans son bon droit et que le problème c'est vous, évidemment ça va être compliqué. Mais comme je dis, il y a la démarche intérieure, démarche spirituelle qui fait que je peux. C'est gentil, vous me rappelez. Bon, j'ai encore 2 minutes. D'autres questions un peu? Oui.
Projection.
J'ai pas compris.
Plus par rapport aux ambitions des parents qui vont être projetés sur les enfants.
Ah, les ambitions, j'ai pas du tout compris la question. Excuse-moi. Oui, non, ça ne veut rien, c'est pas du tout ta question, mais peut-être ça répond à une autre question que quelqu'un n'osait pas poser. Positivons au maximum. Donc, aux ambitions des parents, à un moment donné, les ambitions que les parents ont sur vous, c'est ça? Oui, ça c'est sûr. À la fois, il ne faut pas être dans l'opposition, parce que ce serait une forme d'emprise encore. Je ne sais pas, dans le choix de, par exemple, le choix de son compagnon ou sa compagne de vie, forcément, quand on présente la famille, on aime bien que ça se passe bien. Donc, mais si on fait ça, soit comme provocation, parce qu'on ne veut plus de la mainmise et des projections des parents sur notre vie, tu dois être comme ça, tu dois faire, qui m'a dit, tu vas faire, voilà, tu vas être le premier, tu vas faire telle école, tu vas faire ceci, tu vas, voilà, et qui sans cesse nous ont projeté, et ça génère dans la personne une grande colère, par exemple. Les colères qu'on peut avoir viennent en grande partie par ça, parce qu'il y a eu un manque de liberté. Ça n'a pas été être auteur de sa vie, c'est au contraire une personne qui t'a dit tu feras ceci, tu feras cela, et puis quand on est enfant, on dit oui, parce que on n'a pas de choix, et puis on grandit avec ça. Maintenant, vous adultes, je pense qu'il peut y avoir une parole de vérité et de dire à la fois que je ne me positionne pas en rejet, et à la fois que je ne sois pas soumis à ces injonctions parentales. Hein, parce que vous êtes à un âge, vous avez à décider. Ça veut dire donc du discernement. Ça veut dire que vous fassiez un vrai discernement dans votre vie, dans vos grandes décisions, on sait bien les grandes décisions, que ce soit professionnelles et les grandes décisions surtout amoureuses, de construction de couple, etc. Ben voilà, est-ce que c'est encore pour faire plaisir à papa-maman, est-ce que, ou au contraire pour les faire braire jusqu'au dernier degré, pourquoi est-ce que je fais ça, quoi, c'est, ou est-ce que, non, c'est, je sens que je suis, est-ce que, grandir en liberté par rapport à ça, grandir en liberté, et voilà. Dernière question, peut-être. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, ben c'est vrai que je n'ai pas abordé cette question. Alors, quand le papa... Ben c'est plutôt dans les pathologies, ça, presque. C'est des questions plus liées aux pathologies, comme les dépressions, c'est des maladies, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a... Il faut voir. Est-ce que... Premièrement, ne jamais rester seul. C'est-à-dire, ne jamais que l'épouse, dans ce cas-là, puisque si on parle du père qui serait dans une situation de dépression, reste seule face à ça, ou voulant elle-même régler le problème. Et justement, bouchant tous les trous pour éviter aux enfants de pâtir trop de la situation. Donc ça, c'est certainement un piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on est mère de famille, même si, j'allais dire, ben voilà, quand on voit son enfant tomber, ben on se jette par la fenêtre pour la ramasser, ça c'est évident. Et puis ensuite de dire, qu'est-ce que je suis capable de porter en termes de dépression? Il y a des personnes dont il faut aussi s'éloigner. Parce que là, on rentre dans des pathologies. Des personnes... je pense aux personnes maniaco-dépressives, par exemple, des personnes qui sont destructrices dans leur langage, qui à la fois encouragent et à la fois cassent de l'autre côté, qui noircissent systématiquement à l'enfant tout le ou à la famille. De ce point de vue-là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour protéger? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger? Et puis, qu'est-ce que je prends comme relais positif pour que le garçon ou la fille grandisse dans une image positive aussi de l'homme, et que pas de ce père dépressif qui s'effondre et qui malgré lui, ben voilà, ça fait des années et des années qu'il n'est pas allé au travail parce que il peut pas, il a juste pas la possibilité, voilà, c'est tout s'effondre en lui, quoi. On sent une personne, on appuie ça, il y a rien en face, quoi, ça. Ça résiste pas, quoi. Il y en a, comme tu dis, ça résiste trop, de la colère, etc. Mais il y en a, ça résiste pas. Là aussi, qu'est-ce que je mets? Comme c'est, quelque part, c'est assez pratique avec le père, comme c'est une représentation dans l'esprit de l'enfant, ben, qu'est-ce qu'il y a comme, ça peut être les grands-parents, ça peut être les oncles, ça peut être un ami de la famille, ça peut être quelqu'un qui va être un repère pour que l'enfant se construise. Oui.
Le rapport entre les rapports à ses parents et la vie professionnelle.
Alors, oui. Oui, c'est bon. Miséricorde, j'implore miséricorde de la part de Jean. Et donc, oui, le rapport entre... Donc le, forcément, par rapport au rapport à l'autorité, typique. On voit ça, par exemple, dans la vie religieuse. Il y a des frères qui ont du mal avec l'autorité. Non pas que le supérieur... soit méchant ou quoi qu'est-ce, je veux dire, c'est, n'importe quel supérieur, ils auront du mal avec l'autorité, parce que juste ils n'ont pas, en termes de rapport à l'autorité, ils n'ont pas vu, et ça c'est important aussi, quand on est en soi-même en responsabilité, de dire qu'il y a des projections qui sont faites sur le manager, mais qui ne sont pas de son fait, mais qui sont juste des projections de l'enfant sur son père. Et donc, et parce que le père a été vu comme non désirable, et celui auquel il faut s'opposer, et au contraire celui il faut taper dessus, grosso modo, bah du coup, bah celui qui a la qui en figure d'autorité prendra la place d'eux. Hein, et de ce point de vue-là, je pense que même si dans le milieu professionnel, on doit se limiter, je pense, on ne doit pas aller jusque dans ce niveau d'intimité des personnes, hein, parce que ça serait outrepasser la fonction de responsable, par exemple, mais on peut peut-être suggérer à la personne de dire, mais ça fait 3 managers que tu épuises, bon, on est tous des très très mauvais managers, surtout moi, mais est-ce que toi, de ton côté, tu vois pas qu'il y a autre chose que tu pourrais travailler? Mais il est clair que ça a un rapport. Ou aussi la capacité de prendre des décisions, des risques, etc., de côté pusillanime, velléitaire. Donc, on arrête là, voilà.